Chapitre 12 de la conduite de Napoléon envers le continent européen. Deux plans de conduite très différents s'offraient à Bonaparte lorsqu'il se fit couronner empereur de France. Il pouvait se borner à la barrière du Rhin et des Alpes, que l'Europe ne lui disputait plus après la bataille de Marengo, et rendre la France ainsi agrandie le plus puissant empire du monde. L'exemple de la liberté constitutionnelle en France aurait agi graduellement, mais avec certitude, sur le reste de l'Europe. On n'aurait plus entendu dire que la liberté ne peut convenir qu'à l'Angleterre parce qu'elle est une île, qu'à la Hollande parce qu'elle est une plaine, qu'à la Suisse parce que c'est un pays de montagne. Et l'on aurait vu une monarchie continentale fleurir à l'ombre de la loi, qui, après la religion dont elle émane, est ce qu'il y a de plus saint sur la terre. Beaucoup d'hommes de génie ont épuisé tous leurs efforts pour faire un peu de bien, pour laisser quelques traces de leurs institutions après eux. La destinée, prodigue envers Bonaparte, lui remit une nation de 40 millions d'hommes, alors une nation assez aimable pour influer sur l'esprit et les goûts européens. Un chef habile, à l'ouverture de ce siècle, aurait pu rendre la France heureuse et libre, sans aucun effort, seulement avec quelques vertus. Napoléon est plus coupable encore pour le bien qu'il n'a pas fait que pour les maux dont on l'accuse. Enfin, si sa dévorante activité se trouvait à l'étroit dans la plus belle des monarchies, si c'était un trop misérable sort pour un Corse, sous-lieutenant en 1790, de n'être qu'empereur de France, il fallait au moins qu'il soulevât l'Europe, au nom de quelques avantages pour elle. Le rétablissement de la Pologne, l'indépendance de l'Italie, l'affranchissement de la Grèce avaient de la grandeur. Les peuples pouvaient s'intéresser à la renaissance des peuples. Mais fallait-il inonder la terre de sang pour que le prince Jérôme prît la place de l'électeur de Hesse et pour que les Allemands fussent gouvernés par des administrateurs français qui prenaient chez eux des fiefs dont ils savaient à peine prononcer les titres, bien qu'ils les portassent, mais dont ils touchaient très facilement les revenus dans toutes les langues? Pourquoi l'Allemagne se serait-elle soumise à l'influence française? Cette influence ne lui apportait aucune lumière nouvelle et n'établissait chez elle d'autres institutions libérales que des contributions et des conscriptions encore plus fortes que toutes celles qu'avaient jamais imposées ses anciens maîtres. Il y avait sans doute beaucoup de changements raisonnables à faire dans les constitutions de l'Allemagne. Tous les hommes éclairés le savaient, et pendant longtemps aussi, ils s'étaient montrés favorables à la cause de la France, parce qu'ils en espéraient l'amélioration de leur sort. Mais, sans parler de la juste indignation que tout peuple doit ressentir à l'aspect des soldats étrangers sur son territoire, Bonaparte ne faisait rien en Allemagne que dans le but d'y établir son pouvoir et celui de sa famille. Une telle nation était-elle faite pour servir de piédestal à son égoïsme? L'Espagne aussi devait repousser avec horreur les perfides moyens que Bonaparte employa pour la servir. Qu'offrait-il donc aux empires qu'il voulait subjuguer? Était-ce de la liberté? Était-ce de la force? Était-ce de la richesse? Non, c'était lui, toujours lui, dont il fallait se recréer en échange de tous les biens de ce monde. Les Italiens, par l'espoir confus d'être enfin réunis en un seul État, les infortunés Polonais, qui demandent à l'enfer aussi bien qu'au ciel de redevenir une nation, étaient les seuls qui servissent volontairement l'empereur. Mais il avait tellement en horreur l'amour de la liberté que bien qu'il eût besoin des Polonais pour auxiliaires, il haïssait en eux le noble enthousiasme qui les condamnait à lui obéir. Cet homme si habile dans l'art de dissimuler ne pouvait se servir même avec hypocrisie des sentiments patriotiques dont il aurait pu tirer toutefois tant de ressources. C'était une arme qu'il ne savait pas manier. Et toujours il craignait qu'elle n'éclatât dans sa main. À Posen, les députés polonais vinrent lui offrir leur fortune et leur vie pour rétablir la Pologne. Napoléon leur répondit, avec cette voix sombre et cette déclamation précipitée qu'on a remarquée en lui quand il se contraignait, quelques paroles de liberté, bien ou mal rédigées, mais qui lui coûtaient tellement que c'était le seul mensonge qu'il ne put prononcer avec son apparente bonhomie. Lors même que les applaudissements du peuple étaient en sa faveur, le peuple lui déplaisait toujours. Cet instinct de despote lui a fait élever un trône sans base et l'a contraint à manquer à sa vocation ici-bas, l'établissement de la réforme politique. Les moyens de l'empereur pour asservir l'Europe ont été l'audace dans la guerre et la ruse dans la paix. Il signait des traités quand ses ennemis étaient à demi terrassés, afin de ne les pas porter au désespoir et de les affaiblir assez cependant pour que la hache restée dans le tronc de l'arbre pût le faire périr à la longue. Il gagnait quelques amis parmi les anciens gouvernants, en se montrant en toute chose l'ennemi de la liberté. Aussi, ce sont les nations qui se soulevèrent à la fin contre lui, car il les avait plus offensés que les rois même. Cependant, on s'étonne de trouver encore des partisans de Bonaparte ailleurs que chez les Français, auxquels il donnait au moins la victoire pour dédommagement du despotisme. Ses partisans, en Italie surtout, ne sont en général que des amis de la liberté qui s'étaient flattés, à tort, de l'obtenir de lui, et qui aimeraient encore mieux un grand événement, quel qu'il pût être, que le découragement dans lequel ils sont tombés. Sans vouloir entrer dans les intérêts des étrangers, dont nous nous sommes promis de ne point parler, nous croyons pouvoir affirmer que les biens de détail opérés par Bonaparte, les grandes routes nécessaires à ses projets, les monuments consacrés à sa gloire, quelques restes des institutions libérales de l'Assemblée constituante, dont il permettait quelquefois l'application hors de France, telles que l'amélioration de la jurisprudence, celle de l'éducation publique, les encouragements donnés aux sciences. Tous ces biens, dis-je, quelque désirables qu'ils fussent, ne pouvaient compenser le joug avilissant qu'il faisait peser sur les caractères. Quel homme supérieur a-t-on vu se développer sous son règne? Quel homme verra-t-on même de longtemps là où il a dominé? S'il avait voulu le triomphe d'une liberté sage et digne, l'énergie se serait montrée de toutes parts, et une nouvelle impulsion eût animé le monde civilisé. Mais Bonaparte n'a pas concilié à la France l'amitié d'une nation. Il a fait des mariages, des arrondissements, des réunions. Il a taillé des cartes de géographie et compté les âmes à la manière admise depuis pour compléter les domaines des princes. Mais où a-t-il implanté ces principes? Qui sont les remparts, les trésors et la gloire de l'Angleterre? Ces institutions invincibles, dès qu'elles ont duré 10 ans, car elles ont donné alors tant de bonheur qu'elles rallient tous les citoyens d'un pays à leur défense. Chapitre 13. Des moyens employés par Bonaparte pour attaquer l'Angleterre. Si l'on peut entrevoir un plan dans la conduite vraiment désordonnée de Bonaparte relativement aux nations étrangères, c'est celui d'établir une monarchie universelle dont il se serait déclaré le chef, en donnant en fief des royaumes, des duchés, et en recommençant le régime féodal, ainsi qu'il s'est établi jadis par la conquête. il ne paraît pas même qu'il dût se borner aux confins de l'Europe, et ses vues certainement s'étendaient jusqu'à l'Asie. Enfin, il voulait toujours marcher en avant, tant qu'il ne rencontrerait point d'obstacles. Mais il n'avait pas calculé que dans une entreprise aussi vaste, un obstacle ne forçait pas seulement à s'arrêter, mais détruisait entièrement l'édifice d'une prospérité contre nature, qui devait s'anéantir dès qu'elle ne s'élevait plus. Pour faire supporter la guerre à la nation française, qui, comme toutes les nations, désirait la paix, pour obliger les troupes étrangères à suivre les drapeaux des Français, il fallait un motif qui pût se rattacher, du moins en apparence, au bien public. Nous avons essayé de montrer, dans le chapitre précédent, que si Napoléon avait pris pour étendard la liberté des peuples, il aurait soulevé l'Europe, sans avoir recours aux moyens de terreur. Mais son pouvoir impérial n'y aurait rien gagné, et certes, il n'était pas homme à se conduire par des sentiments désintéressés. Il voulait un mot de ralliement qui pût faire croire qu'il avait en vue l'avantage et l'indépendance de l'Europe. Et c'est la liberté des mers qu'il choisit. Sans doute, la persévérance et les ressources financières des Anglais s'opposaient à ses projets, et il avait de plus une aversion naturelle pour leurs institutions libres et la fierté de leur caractère. Mais ce qui lui convenait surtout, c'était de substituer à la doctrine des gouvernements représentatifs, qui se fondent sur le respect dû aux nations, les intérêts mercantiles et commerciaux, sur lesquels on peut parler sans fin, raisonner sans bornes, et n'atteindre jamais au but. La devise des malheureuses époques de la Révolution française, liberté, égalité, donnait au peuple une impulsion qui ne devait pas plaire à Bonaparte. Mais la devise de ses drapeaux, liberté des mers, le conduisait où il voulait, nécessitait le voyage aux Indes comme la paix la plus raisonnable, si tout à coup il lui convenait de la signer. Enfin, il avait dans ses mots de ralliement un singulier avantage, celui d'animer les esprits sans les diriger contre le pouvoir. M. de Gens et M. A. W. de Schlegel, dans leurs écrits sur le système continental, ont parfaitement traité les avantages et les inconvénients de l'ascendant maritime de l'Angleterre, lorsque l'Europe est dans sa situation ordinaire. Mais au moins est-il certain que cet ascendant balançait seul, il y a quelques années, la domination de Bonaparte, et qu'il ne serait pas resté peut-être un coin de la terre pour y échapper, si l'océan anglais n'avait pas entouré le continent de ses bras protecteurs. Mais, dira-t-on, tout en admirant l'Angleterre, la France doit toujours être rivale de sa puissance, et de tout temps, ses chefs ont essayé de la combattre. Il n'est qu'un moyen d'égaler l'Angleterre, c'est de l'imiter. Si Bonaparte, au lieu d'imaginer cette ridicule comédie de descente qui n'a servi que de sujet aux caricatures anglaises, et ce blocus continental, plus sérieux, mais aussi plus funeste, si Bonaparte n'avait voulu conquérir sur l'Angleterre que sa constitution et son industrie, la France aurait aujourd'hui un commerce fondé sur le crédit, un crédit fondé sur la représentation nationale et sur la stabilité qu'elle donne. Mais le ministère anglais sait malheureusement trop bien qu'une monarchie constitutionnelle est le seul moyen, et tout à fait le seul, d'assurer à la France une prospérité durable. Quand Louis XIV luttait avec succès sur les mers contre les flottes anglaises, c'est que les richesses financières des deux pays étaient alors à peu près les mêmes. Mais depuis 80 ou 100 ans que la liberté s'est consolidée en Angleterre, la France ne peut se mettre en équilibre avec elle que par des garanties légales de la même nature. Au lieu de prendre cette vérité pour boussole, qu'a fait Bonaparte? la gigantesque idée du blocus continental ressemblait à une espèce de croisade européenne contre l'Angleterre, dont le sceptre de Napoléon était le signe de ralliement. Mais si, dans l'intérieur, l'exclusion des marchandises anglaises a donné quelques encouragements aux manufactures, les ports ont été déserts et le commerce anéanti. Rien n'a rendu Napoléon plus impopulaire que ce renchérissement du sucre et du café, qui portait sur les habitudes journalières de toutes les classes. En faisant brûler dans les villes de sa dépendance, depuis Hambourg jusqu'à Naples, les produits de l'industrie anglaise, il révoltait tous les témoins de ses actes de foi en l'honneur du despotisme. J'ai vu sur la place publique à Genève de pauvres femmes se jeter à genoux devant le bûcher où l'on brûlait des marchandises, en suppliant qu'on leur permît d'arracher à temps aux flammes quelques morceaux de toile ou de drap pour vêtir leurs enfants dans la misère. De pareilles scènes devaient se renouveler partout. Mais quoique les hommes d'État, dans le genre ironique, répétassent alors qu'elles ne signifiaient rien, elles étaient le tableau vivant d'une absurdité tyrannique, le blocus continental. Qu'est-il résulté des terribles anathèmes de Bonaparte ? La puissance de l'Angleterre s'est accrue dans les quatre parties du monde. Son influence sur les gouvernements étrangers a été sans bornes. Et elle devait l'être, vu la grandeur du mal dont elle préservait l'Europe. Bonaparte, qu'on persiste à nommer habile, a pourtant trouvé l'art maladroit de multiplier partout les ressources de ses adversaires, et d'augmenter tellement celles de l'Angleterre en particulier, qu'il n'a pu réussir à lui faire qu'un seul mal peut-être. Il est vrai le plus grand de tous, celui d'accroître ses forces militaires à un tel degré qu'on pourrait craindre pour sa liberté si l'on ne se fiait pas à son esprit public. On ne peut nier qu'il ne soit très naturel que la France envie la prospérité de l'Angleterre. Et ce sentiment l'a porté à se laisser tromper sur quelques-uns des essais de Bonaparte pour élever l'industrie française à la hauteur de celle de l'Angleterre. Mais est-ce par des prohibitions armées qu'on crée de la richesse? La volonté des souverains ne saurait plus diriger le système industriel et commercial des nations. Il faut les laisser aller à leur développement naturel et seconder leurs intérêts selon leurs vœux. Mais, de même qu'une femme peut s'irriter des hommages offerts à sa rivale, n'en obtient pas davantage elle-même. Une nation, en fait de commerce et d'industrie, ne peut l'emporter qu'en sachant attirer les tribus volontaires, et non en proscrivant la concurrence. Les gazetiers officiels étaient chargés d'insulter la nation et le gouvernement anglais. Dans les feuilles de chaque jour, d'absurdes dénominations telles que celles de perfides insulaires, de marchands avides, étaient sans cesse répétées avec des variations qui ne devaient pourtant pas trop s'éloigner du texte. On est remonté dans quelques écrits jusqu'à Guillaume le Conquérant pour qualifier de révolte la bataille de Hastings, et l'ignorance facilitait à la bassesse les plus misérables calomnies. Les journalistes de Bonaparte, auxquels nul ne pouvait répondre, ont défiguré l'histoire, les institutions et le caractère de la nation anglaise. C'est encore un des fléaux de l'esclavage de la presse. La France les a tous subis. Comme Bonaparte se respectait lui-même plus que ceux qui lui étaient soumis, il se permettait quelquefois dans la conversation de dire assez bien de l'Angleterre, soit qu'il voulût préparer les esprits pour telle circonstance, où il lui conviendrait de traiter avec le gouvernement anglais, soit plutôt qu'il aimât à s'affranchir un moment du faux langage qu'il commandait à ses serviteurs. C'était le cas de dire « Faisons mentir nos gens ». chapitre 14, sur l'esprit de l'armée française. Il ne faut pas l'oublier. L'armée française a été admirable pendant les 10 premières années de la guerre de la Révolution. Les qualités qui manquaient aux hommes employés dans la carrière civile, on les retrouvait dans les militaires. Persévérance, dévouement, audace et même bonté, quand l'impétuosité de l'attaque n'altérait pas leur caractère naturel. Les soldats et les officiers se faisaient souvent aimer dans les pays étrangers, lors même que leurs armes y avaient fait du mal. Non seulement ils bravaient la mort avec cette incroyable énergie qu'on retrouvera toujours dans leur sang et dans leur cœur, mais ils supportaient les plus affreuses privations avec une sérénité sans exemple. Cette légèreté, dont on accuse avec raison les Français dans les affaires politiques, devenait respectable quand elle se transformait en insouciance du danger, en insouciance même de la douleur. Les soldats français souriaient au milieu des situations les plus cruelles et se ranimaient encore dans les angoisses de la souffrance, soit par un sentiment d'enthousiasme pour la patrie, soit par un bon mot qui faisait revivre cette gaieté spirituelle à laquelle les dernières classes même de la société sont toujours sensibles en France. La Révolution avait perfectionné singulièrement l'art funeste du recrutement. Mais le bien qu'elle en avait fait, en rendant tous les grades accessibles au mérite, excita dans l'armée française une émulation sans bornes. C'est à ces principes de liberté que Bonaparte a dû les ressources dont il s'est servi contre la liberté même. Bientôt l'armée, sous Napoléon, ne conserva guère de ses vertus populaires que son admirable valeur et un noble sentiment d'orgueil national. Combien elle était déchue toutefois, quand elle se battait pour un homme, tandis que ses devanciers, tandis que ses vétérans même, 10 ans plus tôt, ne s'étaient dévoués qu'à la patrie. Bientôt aussi les troupes de presque toutes les nations continentales furent forcées à combattre sous les étendards de la France. Quel sentiment patriotique pouvait animer les Allemands, les Hollandais, les Italiens, quand rien ne leur garantissait l'indépendance de leur pays, ou plutôt quand son asservissement pesait sur eux? Ils n'avaient de commun entre eux qu'un même chef, et c'est pour cela que rien n'était moins solide que leur association. Car l'enthousiasme pour un homme, quel qu'il soit, est nécessairement variable. L'amour seul de la patrie et de la liberté ne peut changer, parce qu'il est désintéressé dans son principe. Ce qui faisait le prestige de Napoléon, c'était l'idée qu'on avait de sa fortune. L'attachement à lui n'était que l'attachement à soi. L'on croyait aux avantages de tout genre qu'on obtiendrait sous ses drapeaux. Et comme il jugeait à merveille le mérite militaire et savait le récompenser, le plus simple soldat de l'armée pouvait nourrir l'espoir de devenir maréchal de France. Les titres, la naissance, les services de courtisans influaient peu sur l'avancement dans l'armée. Il existait là, malgré le despotisme du gouvernement, un esprit d'égalité parce que là, Bonaparte avait besoin de force et qu'il n'en peut exister sans un certain degré d'indépendance. Aussi, sous le règne de l'empereur, ce qui valait encore le mieux, c'était certainement l'armée. Les commissaires qui frappaient le pays conquis de contributions, d'emprisonnement, d'exil. Ces nuées d'agents civils qui venaient, comme les vautours, fondre sur le champ de bataille après la victoire, ont fait détester les Français bien plus que ces pauvres braves conscrits qui passaient de l'enfance à la mort, en croyant défendre leur patrie. C'est aux hommes profonds dans l'art militaire qu'il appartient de prononcer sur les talents de Bonaparte comme capitaine. Mais, à ne juger de lui sous ce rapport que par les observations à la portée de tout le monde, il me semble que son ardent égoïsme a peut-être contribué à ses premiers triomphes comme à ses derniers revers. il lui manquait, dans la carrière des armes, aussi bien que dans toutes les autres, ce respect pour les hommes et ce sentiment du devoir, sans lesquels rien de grand n'est durable. Bonaparte, comme général, n'a jamais ménagé le sang de ses troupes. C'est en prodiguant la foule des soldats que la Révolution lui avait valu qu'il a remporté ses étonnantes victoires. Il a marché sans magasin, ce qui rendait ses mouvements singulièrement rapides, mais doublait les maux de la guerre pour les pays qui en étaient le théâtre. Enfin, il n'y a pas jusqu'à son genre de manœuvre militaire qui ne soit en rapport quelconque avec le reste de son caractère. Il risque toujours le tout pour le tout, comptant sur les fautes de ses ennemis qu'il méprise, et prêt à sacrifier ses partisans, dont il ne se soucie guère s'il n'obtient pas avec eux la victoire. On l'a vu dans la guerre d'Autriche en 1809, quitter l'île de Lobau, dont il jugeait la bataille perdue. Il traversa le Danube seul avec M. de Czernicheff, l'un des intrépides aides de camp de l'empereur de Russie, et le maréchal Berthier. L'empereur leur dit assez tranquillement qu'après avoir gagné 40 batailles, il n'était pas extraordinaire d'en perdre une. Et lorsqu'il fut arrivé de l'autre côté du fleuve, il se coucha et dormit jusqu'au lendemain matin, sans s'informer du sort de l'armée française, que ses généraux sauvèrent pendant son sommeil. Quel singulier trait de caractère ! Et cependant, il n'est point d'homme plus actif, plus audacieux dans la plupart des occasions importantes. Mais on dirait qu'il ne sait naviguer qu'avec un vent favorable, et que le malheur le glace tout à coup, comme s'il avait fait un pacte magique avec la fortune et qu'il ne put marcher sans elle. La postérité, déjà même beaucoup de nos contemporains, objecteront aux antagonistes de Bonaparte l'enthousiasme qu'il inspirait à son armée. Nous traiterons ce sujet aussi impartialement qu'il nous sera possible, quand nous serons arrivés au funeste retour de l'île d'Elbe. Que Bonaparte fût un homme d'un génie transcendant à beaucoup d'égards, qui pourrait le nier ? Il voyait aussi loin que la connaissance du mal peut s'étendre. Mais il y a quelque chose par-delà. C'est la région du bien. Les talents militaires ne sont pas toujours la preuve d'un esprit supérieur. Beaucoup de hasards peuvent servir dans cette carrière. D'ailleurs, le genre de coup d'œil qu'il faut pour conduire les hommes sur le champ de bataille ne ressemble point à l'intime vue qu'exige l'art de gouverner. L'un des plus grands malheurs de l'espèce humaine, c'est l'impression que les succès de la force produisent sur les esprits. Et néanmoins, il n'y aura ni liberté, ni morale dans le monde, si l'on n'arrive pas à ne considérer une bataille que d'après la bonté de la cause et l'utilité du résultat, comme tout autre fait de ce monde. L'un des plus grands maux que Bonaparte ait fait à la France, c'est d'avoir donné le goût du luxe à ses guerriers, qui se contentaient si bien de la gloire dans les jours où la nation était encore vivante. Un intrépide maréchal, couvert de blessures et impatient d'en recevoir encore, demandait pour son hôtel un lit tellement chargé de dorures et de broderies qu'on ne pouvait trouver dans tout Paris de quoi satisfaire son désir. « Eh bien, dit-il alors dans sa mauvaise humeur, donnez-moi une botte de paille et je dormirai très bien dessus. » En effet, il n'y a point d'intervalle pour ces hommes entre la pompe des mille et une nuits et la vie rigide à laquelle ils sont accoutumés. Il faut accuser encore Bonaparte d'avoir altéré le caractère français en le formant aux habitudes de dissimulation dont il donnait l'exemple. Plusieurs chefs militaires sont devenus diplomates à l'école de Napoléon, capables de cacher leurs véritables opinions, d'étudier les circonstances et de s'y plier. Leur bravoure est restée la même, mais tout le reste a changé. Les officiers attachés de plus près à l'empereur, loin d'avoir conservé l'aménité française, était devenu froid, circonspect, dédaigneux. Ils saluaient de la tête, parlaient peu, et semblaient partager le mépris de leur maître pour la race humaine. Les soldats ont toujours des mouvements généreux et naturels. Mais la doctrine de l'obéissance passive que des partis opposés dans leurs intérêts, bien que d'accord dans leurs maximes, ont introduite parmi les chefs de l'armée, a nécessairement altéré ce qu'il y avait de grand et de patriote dans les troupes françaises. La force armée doit être, dit-on, essentiellement obéissante. Cela est vrai sur le champ de bataille, en présence de l'ennemi et sous le rapport de la discipline militaire. Mais les Français pouvaient-ils et devaient-ils ignorer qu'ils immolaient une nation en Espagne ? Pouvaient-ils et devaient-ils ignorer qu'ils ne défendaient pas leur foyer à Moscou et que l'Europe n'était en armes que parce que Bonaparte avait su se servir successivement de chacun des pays qui la composent pour l'asservir tout entière ? On voudrait faire des militaires une sorte de corporation en dehors de la nation, et qui ne put jamais s'unir avec elle. Ainsi, les malheureux peuples auraient toujours deux ennemis, leurs propres troupes et celles des étrangers, puisque toutes les vertus des citoyens seraient interdites aux guerriers. L'armée d'Angleterre est aussi soumise à la discipline que celle des États les plus absolus de l'Europe. Mais les officiers n'en font pas moins usage de leur raison, soit comme citoyens en se mêlant de retour chez eux des intérêts publics de leur pays, soit comme militaires en connaissant et respectant l'empire de la loi dans ce qui les concerne. Jamais un officier anglais n'arrêterait un individu, ni ne tirerait même sur le peuple en émeute, que d'après les formes voulues par la Constitution. Il y a intention de despotisme toutes les fois qu'on veut interdire aux hommes l'usage de la raison que Dieu leur a donnée. Il suffit, dira-t-on, d'obéir à son serment. Mais qu'y a-t-il qui exige plus l'emploi de la raison que la connaissance des devoirs attachés à ce serment même ? Penserait-on que celui qu'on avait prêté à Bonaparte pût obliger aucun officier à enlever le duc d'Enghien sur la terre étrangère qui devait lui servir d'asile ? Toutes les fois qu'on établit des maximes anti-libérales, c'est pour s'en servir comme d'une batterie contre ses adversaires, mais à condition que ses adversaires ne les retournent pas contre nous. Il n'y a que les lumières et la justice dont on n'ait rien à craindre dans aucun parti. Qu'arrive-t-il enfin de cette maxime emphatique « L'armée ne doit pas juger mais obéir » C'est que l'armée, dans les troubles civils, dispose toujours du sort des empires. Mais seulement elle en dispose mal, parce qu'on lui a interdit l'usage de sa raison. C'est par une suite de cette obéissance aveugle à ses chefs dont on avait fait un devoir à l'armée française qu'elle a maintenu le gouvernement de Bonaparte. Combien ne l'a-t-on pas blâmé, cependant, de ne l'avoir pas renversé ? Les corps civils, pour se justifier de leur servilité envers l'empereur, s'en prenaient à l'armée, et il est facile de faire dire, dans la même phrase, aux partisans du pouvoir absolu, qui d'ordinaire ne sont pas forts en logique, d'abord que les militaires ne doivent jamais avoir d'opinion sur rien en politique, et puis qu'ils ont été bien coupables de se prêter aux guerres injustes de Bonaparte. Certes, ceux qui versent leur sang pour l'État ont bien un peu le droit de savoir si c'est de l'État qu'il s'agit quand ils se battent. Il ne s'ensuit pas que l'armée puisse être le gouvernement. Dieu nous en préserve. Mais si l'armée doit se tenir à part des affaires publiques, dans tout ce qui concerne leur direction habituelle, la liberté du pays n'en est pas moins sous sa sauvegarde. Et quand le despotisme s'en empare, il faut qu'elle se refuse à le soutenir. Quoi, dira-t-on, vous voulez que l'armée délibère ? Si vous appelez délibérer, connaître son devoir et se servir de ses facultés pour l'accomplir. Je répondrai que, si vous défendez aujourd'hui de raisonner contre vos ordres, vous trouverez mauvais demain qu'on n'ait pas raisonné contre ceux d'un autre. Tous les partis qui exigent, en matière de politique comme en matière de foi, qu'on renonce à l'exercice de sa pensée, veulent seulement que l'on pense comme eux quoi qu'il arrive. Et cependant, quand on transforme les soldats en machines, si ces machines cèdent à la force, on n'a pas le droit de s'en plaindre. L'on ne saurait se passer de l'opinion des hommes pour les gouverner. L'armée, comme toute autre association, doit savoir qu'elle fait partie d'un État libre et défendre envers et contre tous la Constitution légalement établie. L'armée française peut-elle ne pas se repentir amèrement aujourd'hui de cette obéissance aveugle envers son chef qui a perdu la France? Si les soldats n'avaient pas cessé d'être des citoyens, ils seraient encore les soutiens de leur patrie. Il faut en convenir toutefois, et de bon cœur, c'est une funeste invention que les troupes de ligne. Et si l'on pouvait les supprimer à la fois dans toute l'Europe, l'espèce humaine aurait fait un grand pas vers le perfectionnement de l'ordre social. Si Bonaparte s'était arrêté après quelques-unes de ses victoires, son nom et celui des armées françaises produisaient alors un tel effet qu'il aurait pu se contenter de garde nationale pour la défense du Rhin et des Alpes. Tout ce qu'il y a de bien dans les choses humaines a été en sa puissance, mais la leçon qu'il devait donner au monde était d'une autre nature. Lors de la dernière invasion de la France, un général des Alliés a déclaré qu'il ferait fusiller tout Français, simple citoyen, qui saurait trouver les armes à la main. Des généraux français avaient eu quelquefois le même tort en Allemagne. Et cependant, les soldats des armées de ligne sont beaucoup plus étrangers au sort de la guerre défensive que les habitants du pays. S'il était vrai, comme le disait ce général, qu'il ne fut pas permis aux citoyens de se défendre contre les troupes réglées, tous les Espagnols seraient coupables. Et l'Europe obéirait encore à Bonaparte. Car il ne faut pas l'oublier, ce sont les simples habitants de l'Espagne qui ont commencé la lutte, ce sont eux qui, les premiers, ont pensé que les probabilités du succès n'étaient de rien dans le devoir de la résistance. Aucun de ces Espagnols, et quelque temps après, aucun des paysans russes, ne faisait partie d'une armée de ligne. Et ils n'en étaient que plus respectables, en combattant pour l'indépendance de leur pays. Chapitre 15 de la législation et de l'administration sous Bonaparte. On n'a point encore assez caractérisé l'arbitraire sans bornes et la corruption sans pudeur du gouvernement civil sous Bonaparte. On pourrait croire qu'après le torrent d'injures auquel on s'abandonne toujours en France contre les vaincus, il ne peut rester sur une puissance renversée aucun mal à dire que les flatteurs du règne suivant n'aient épuisé. Mais comme on voulait ménager la doctrine du despotisme tout en attaquant Bonaparte, comme un grand nombre de ceux qui l'injurient aujourd'hui l'avaient loué la veille, il fallait, pour mettre quelque accord dans une conduite où il n'y avait de conséquent que la bassesse, attaquer l'homme au-delà même de ce qu'il mérite, et néanmoins se taire, à beaucoup d'égards, sur un système dont on voulait se servir encore. Le plus grand crime de Napoléon, toutefois, celui pour lequel tous les penseurs, tous les écrivains dispensateurs de la gloire dans la postérité ne cesseront de l'accuser auprès de l'espèce humaine, c'est l'établissement et l'organisation du despotisme. Il l'a fondé sur l'immoralité, car les lumières qui existaient en France étaient telles que le pouvoir absolu ne pouvait s'y maintenir que par la dépravation, tandis qu'ailleurs il subsiste par l'ignorance. Peut-on parler de législation dans un pays où la volonté d'un seul homme décidait de tout, où cet homme, mobile et agité comme les flots de la mer pendant la tempête, ne pouvait pas même supporter la barrière de sa propre volonté, si on lui opposait celle de la veille, quand il avait envie d'en changer le lendemain? Une fois, un de ses conseillers d'État s'avisa de lui représenter que le code Napoléon s'opposait à la résolution qu'il allait prendre. « Eh bien, dit-il, le code Napoléon a été fait pour le salut du peuple, et si ce salut exige d'autres mesures, il faut les prendre. » Quel prétexte pour une puissance illimitée que celui du salut public! Robespierre a bien fait d'appeler ainsi son gouvernement. Peu de temps après la mort du duc d'Enghien, lorsque Bonaparte était peut-être encore troublé dans le fond de son âme par l'horreur que cet assassinat avait inspirée, il dit, en parlant de littérature avec un artiste très capable d'en bien juger, « La raison d'État, voyez-vous, a remplacé chez les modernes le fatalisme des anciens. Corneille est le seul des tragiques français qui ait senti cette vérité. S'il avait vécu de mon temps, je l'aurais fait mon premier ministre. » Il y avait deux sortes d'instruments du pouvoir impérial, les lois et les décrets. Les lois étaient sanctionnées par le simulacre d'un corps législatif, mais c'était dans les décrets émanés directement de l'empereur et discutés dans son conseil que consistait la véritable action de l'autorité. Napoléon abandonnait aux beaux-parleurs du Conseil d'État et aux députés muets du corps législatif la délibération et la décision de quelques questions abstraites en fait de jurisprudence, afin de donner à son gouvernement un faux air de sagesse philosophique. Mais quand il s'agissait des lois relatives à l'exercice du pouvoir, alors toutes les exceptions, comme toutes les règles, ressortissaient à l'empereur. Dans le code Napoléon, et même dans le code d'instruction criminelle, il est resté de très bons principes, dérivés de l'Assemblée constituante, l'institution du jury, ancre d'espoir de la France, et divers perfectionnements dans la procédure qui l'ont tirée des ténèbres où elle était avant la Révolution, et où elle est encore dans plusieurs États de l'Europe. Mais qu'importaient les institutions légales, puisque des tribunaux extraordinaires nommés par l'empereur, des cours spéciales, des commissions militaires jugeaient tous les délits politiques, c'est-à-dire ceux qui ont le plus besoin de l'égide invariable de la loi. Nous montrerons, dans le volume suivant, combien dans ces procès politiques, les Anglais ont multiplié les précautions afin de mettre la justice plus sûrement à l'abri du pouvoir. Quels exemples n'a-t-on pas vus, sous Bonaparte, de ces tribunaux extraordinaires qui devenaient habituels? Car dès qu'on se permet un acte arbitraire, ce poison s'insinue dans toutes les affaires de l'État. Des exécutions rapides et ténébreuses n'ont-elles pas souillé le sol de la France? Le code militaire ne se mêle que trop d'ordinaire au code civil dans tous les pays, l'Angleterre exceptée. Mais il suffisait sous Bonaparte d'être accusé d'embauchage pour être traduit devant les commissions militaires. Et c'est ainsi que le duc d'Enghien a été jugé. Bonaparte n'a pas permis une seule fois qu'un homme pût avoir recours pour un délit politique à la décision du jury. Le général Moreau et ses co-accusés en ont été privés, mais ils eurent heureusement affaire à des juges qui respectaient leur conscience. Ces juges n'ont pu cependant prévenir les iniquités qui se commirent dans cette horrible procédure. Et la torture fut introduite de nouveau dans le XIXe siècle par un chef national dont le pouvoir devait émaner de l'opinion. Il était difficile de distinguer la législation de l'administration sous le règne de Napoléon, car l'une et l'autre dépendaient également de l'autorité suprême. Cependant, nous ferons une observation principale sur ce sujet. toutes les fois que les améliorations possibles dans les diverses branches du gouvernement ne portaient en rien atteinte au pouvoir de Bonaparte, et que ces améliorations, au contraire, contribuaient à ses plans et à sa gloire, il faisait, pour les accomplir, un usage habile des immenses ressources que lui donnait la domination de presque toute l'Europe. Et comme il possédait un grand tact pour connaître parmi les hommes ceux qui pouvaient lui servir d'instrument, il employait presque toujours des têtes très propres aux affaires dont il les chargeait. L'on doit au gouvernement impérial les musées des arts et les embellissements de Paris, des grands chemins, des canaux qui facilitaient les communications des départements entre eux, enfin tout ce qui pouvait frapper l'imagination, en montrant, comme dans le Simplon et le Mont-Cenis, que la nature obéissait à Napoléon presque aussi docilement que les hommes. Ces prodiges divers se sont opérés parce qu'il pouvait porter sur chaque point en particulier les tribus et le travail de 80 millions d'hommes. Mais les rois d'Égypte et les empereurs romains ont eu, sous ce rapport, d'aussi grands titres à la gloire, ce qui constitue le développement moral des peuples. Dans quel pays Bonaparte s'en est-il occupé? Et que de moyens, au contraire, n'a-t-il pas employé en France pour étouffer l'esprit public qui s'était accru, malgré les mauvais gouvernements enfantés par les passions? Toutes les autorités locales, dans les provinces, ont été par degrés supprimées ou annulées. Il n'y a plus en France qu'un seul foyer de mouvement, Paris, et l'instruction, qui naît de l'émulation, a dépéri dans les provinces, tandis que la négligence avec laquelle on entretenait les écoles achevait de consolider l'ignorance, si bien d'accord avec la servitude. Cependant, comme les hommes qui ont de l'esprit éprouvent le besoin de s'en servir, tous ceux qui avaient quelque talent ont été bien vite dans la capitale pour tâcher d'obtenir des places. De là vient cette fureur d'être employé par l'État et pensionné par lui, qui avilit et dévore la France. Si l'on avait quelque chose à faire chez soi, si l'on pouvait se mêler de l'administration de sa ville et de son département, si l'on avait occasion de s'y rendre utile, d'y mériter de la considération et de s'assurer par là l'espoir d'être un jour élu député, l'on ne verrait pas aborder à Paris quiconque peut se flatter de l'emporter sur ses concurrents, par une intrigue ou par une flatterie de plus. Aucun emploi n'était laissé au choix libre des citoyens. Bonaparte se complaisait à rendre lui-même des décrets sur des nominations d'huissiers datées des premières capitales de l'Europe. Il voulait se montrer comme présent partout, comme suffisant à tout, comme le seul être gouvernant dans le monde. Toutefois, un homme ne saurait parvenir à se multiplier à cet excès que par le charlatanisme, car la réalité du pouvoir tombe toujours entre les mains des agents subalternes qui exercent le despotisme en détail. Dans un pays où il n'y a ni corps intermédiaire indépendant, ni liberté de la presse, ce qu'un despote, de l'esprit même le plus supérieur, ne parvient jamais à savoir, c'est la vérité qui pourrait lui déplaire. Le commerce, le crédit, tout ce qui demande une action spontanée dans la nation et une garantie certaine contre les caprices du gouvernement, ne s'adaptait point au système de Bonaparte. Les contributions des pays étrangers en étaient la seule base. On respectait assez la dette publique, ce qui donnait une apparence de bonne foi au gouvernement, sans le gêner beaucoup, vu la petitesse de la somme. Mais les autres créanciers du trésor public savaient que d'être payés ou de ne l'être pas devait être considéré comme une chance dans laquelle ce qui entrait le moins, c'était leur droit. Aussi personne n'imaginait-il de prêter rien à l'État, quelque puissant que fût son chef, et précisément parce qu'il était trop puissant. Les décrets révolutionnaires, que 15 ans de troubles avaient entassés, étaient pris ou laissés selon la décision du moment. Il y avait presque toujours sur chaque affaire une loi pour et contre, que les ministres appliquaient selon leur convenance. Les sophismes, qui n'étaient que de luxe, puisque l'autorité pouvait tout, justifiaient tour à tour les mesures les plus opposées. Quel indigne établissement que celui de la police! Cette inquisition politique, dans les temps modernes, a pris la place de l'inquisition religieuse. Était-il aimé, le chef qui avait besoin de faire peser sur la nation un esclavage pareil? Il se servait des uns pour accuser les autres, et se vantait de mettre en pratique cette vieille maxime de diviser pour commander, qui, grâce au progrès de la raison, n'est plus qu'une ruse bien facilement découverte. Le revenu de cette police était digne de son emploi. C'étaient les jeux de Paris qu'il entretenait. Elle soudoyait le vice avec l'argent du vice qui la payait. Elle échappait à l'animadversion publique par le mystère dont elle s'enveloppait. Mais quand le hasard faisait mettre au jour un procès où les agents de police se trouvaient mêlés de quelque manière, peut-on se représenter quelque chose de plus dégoûtant, de plus perfide et de plus bas que les disputes qui s'élevaient entre ces misérables? Tantôt ils déclaraient qu'ils avaient professé une opinion pour en servir secrètement une opposée. Tantôt ils se vantaient des embûches qu'ils avaient dressées aux mécontents pour les engager à conspirer, afin de les trahir s'ils conspiraient. Et l'on a reçu la déposition d'hommes semblables devant les tribunaux? L'invention malheureuse de cette police s'est tournée depuis contre les partisans de Bonaparte, à leur tour. N'ont-ils pas dû penser que c'était le taureau de Phalaris dont ils subissaient eux-mêmes le supplice, après en avoir conçu la funeste idée ?